autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans notre ruche, chers amis auditeurs, pour compter avec les abeilles aujourd'hui, en découvrant leur formidable capacité d'apprentissage, de mémorisation, de communication et même de calcul. Car les abeilles sont capables de compter pour faire leur miel. Une sacrée découverte de notre invité, le professeur Martin Jurfa, et son équipe du Centre de recherche sur la cognition animale de Toulouse. Les abeilles ont le sens du nombre, du zéro et même des nombres absolus. Les reines des insectes sociaux n'ont décidément pas fini de nous surprendre, jusqu'où nous entraînera l'intelligence des abeilles, formidables pollinisatrices qui n'ont décidément pas leur pareil pour faire le buzz. Nous proposons d'entrer dans leur danse autour de la question comment se mettre dans le cerveau d'une abeille. Bienvenue. Bonjour Martin Jurfa.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Occitanie à Toulouse pour nous faire partager vos étonnantes découvertes sur les capacités cognitives des abeilles. Aujourd'hui même, la prestigieuse revue scientifique Biology Letters vient de refaire le buzz avec votre nouvelle étude qui démontre que les abeilles, que vous nous aviez déjà révélées maîtresses du zéro, sont capables d'apprendre des nombres de façon absolue. On y reviendra, car vous consacrez votre vie de chercheur, Martin, à l'étude du cerveau des abeilles. Vous êtes docteur en neurosciences, professeur à l'Université de Toulouse, où vous avez créé le Centre de recherche sur la cognition animale, le CREA, où vous dirigez l'équipe de recherche plasticité dépendante de l'expérience chez l'insecte, et en particulier chez l'abeille. Alors, pourquoi l'abeille, les abeilles, Martin Jurfa, que vous apprend le cerveau de l'abeille ?
Donc la première chose à savoir, c'est que, comme vous l'avez dit, ce cerveau est capable de performances absolument magnifiques du point de vue cognitif. Ces abeilles apprennent et mémorisent, mais non seulement ceci, elles sont capables d'extraire des règles, d'apprendre de concepts, de compter, de faire même des opérations de mathématiques élémentaires, etc. Et donc une première question, c'est comment un tout petit cerveau avec à peine 950 000 neurones arrive à faire ceci ?
Et oui, donc, c'est un tout petit cerveau, vous l'avez dit dans une conférence d'ailleurs, pour une méga cognition, c'est ça ?
Tout à fait. Bon, la mégacognition, c'est ce que j'ai essayé de décrire avec ces simples mots de ce qu'elle peut faire, et encore, je reste court. Mais là, il y a à peine 950 000 neurones, et donc le pari qu'on essaye de faire, c'est repérer parmi ces neurones les circuits responsables de ces tâches-là, et non pas par simple jeu ou par inspiration, mais tout simplement avec l'idée que peut-être, en repérant ces circuits, on pourra identifier chez nous l'équivalent de ces circuits magnifiés, probablement, mais qui font des tâches similaires.
Et oui, donc le cerveau des abeilles a beaucoup à nous apprendre. D'ailleurs, ça intéresse de nombreux chercheurs de par le monde. Vous revenez juste de Chine, Martin Jurfa, où vous avez été invité à l'université de Fuzhou, c'est ça, pour collaborer un College of Bee Studies, étudier les abeilles sous toutes leurs coutures, si j'ose dire.
Exactement. Donc c'est vrai qu'actuellement en Chine, il y a un grand investissement dans tout ce qui soit la recherche fondamentale et appliquée. Et ils ont monté effectivement ce projet d'un collège, donc c'est-à-dire d'une faculté dédiée à l'étude sur les abeilles pour aborder sur différents aspects. Et ça permet effectivement d'aborder des aspects de biologie moléculaire, de gènes, de molécules, qui est extrêmement important à l'heure actuelle. Donc il faut effectivement aller creuser plus fin dans l'architecture de ce système cognitif.
À la fois pour les abeilles elles-mêmes et à la fois pour nous. Pour ce que ça peut nous apprendre et nous apporter.
Absolument, parce que exactement c'est l'idée, parce que quand je vous dis par exemple qu'elles apprennent et mémorisent, qu'elles forment des mémoires à long terme comme chez nous, ce qui est assez absolument magnifique et surprenant, c'est que les molécules qui dans les neurones interviennent pour la formation de ces mémoires, les processus qui se déclenchent, les cascades de molécules qui sont activées lors de la formation de ces mémoires à long terme sont exactement les mêmes ou pratiquement les mêmes que chez nous. Donc le pari est que à partir de l'identification de ces cascades, de pouvoir les booster ou de pouvoir, par exemple, les diminuer, on peut comprendre beaucoup mieux et jouer même sur les processus de formation de la mémoire chez nous.
Autour de la question comment se mettre dans le cerveau d'une abeille et pourquoi ces reines des insectes sociaux ont toujours fasciné et inspiré les hommes, je propose d'écouter l'éclairage d'un philosophe, Pierre-Henri Tavoyot, auteur d'un ouvrage intitulé « L'abeille et le philosophe », mais on pourrait aussi parler de l'abeille et du scientifique.
Avec plaisir. À partir de la Renaissance, c'est le moment où effectivement l'abeille symbole, l'abeille peut-être théologique, l'abeille mythologique, commence à devenir elle-même objet de science. C'est le moment, par exemple, où on invente le microscope et, comme par hasard, la première représentation mondiale d'une image microscopique, c'est quoi ? C'est une abeille. Parce que ça se passe à Rome, l'Académie des Lynx, le microscope arrive et Barberini, le pape de l'époque, Urbain VIII, et son blason, ce sont des abeilles. Et donc, pour lui faire plaisir, eh bien, on observe les abeilles. Donc, la première représentation microscopique, c'est une abeille, et on va du coup commencer à s'apercevoir que c'est assez compliqué. Donc elle devient objet de science, elle devient objet de réflexion.
L'abeille, objet de science, objet de réflexion éminemment complexe. Vous êtes d'accord avec le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, Martin Jurfa ?
Oui, absolument. Donc c'est effectivement un objet de science, de réflexion. Je voudrais dire par contre que je voudrais aussi pousser un petit peu plus loin,
oui,
et dire qu'au-delà de cette réflexion, de cette observation, de cette étude, il faudrait aussi que ce cerveau, comme bien d'autres d'ailleurs, soit aussi objet de respect.
Absolument.
Comme vous le savez, les abeilles sont en train de subir des pertes colossales au niveau mondial. Mm-hmm. On connaît certains des acteurs impliqués dans ces pertes. Et je crois qu'il y a là une proportion de responsabilité de la part de nos pratiques humaines qui est derrière ceci. Et donc, il faut qu'on apprenne à respecter ces petits cerveaux de par ce qu'ils peuvent faire, de par leur organisation, et agir peut-être autrement par rapport à l'environnement.
Et c'est vrai que de découvrir à quel point le cerveau des abeilles, enfin les abeilles ont des capacités cognitives, peut-être c'est l'émerveillement devant leur capacité, devant ce tout petit cerveau et cette méga cognition, peut-être nous aider à les protéger. Vous dites vous-même que les abeilles communiquent, qu'elles ont la capacité de communiquer. Alors j'aimerais bien qu'on comprenne un peu à quel point elles communiquent et comment elles communiquent. On s'arrête peut-être sur cette fameuse danse des abeilles qui avait été décodée par l'éthologue Carl von Frisch. Et c'est cette danse qui leur permet de communiquer, c'est ça ?
Absolument. Donc ça a été l'objet du prix Nobel octroyé à Carl von Frisch dans les années 70. Il a pu découvrir après nombreuses années d'études que les abeilles qui reviennent d'une source de nourriture, donc une fleur qui est riche en nectar par exemple, font à l'intérieur de la ruche une danse, c'est-à-dire des mouvements stéréotypés qui ont pour capacité d'indiquer la distance et la direction de cette source à d'autres congénères qui ne sont pas ou qui ne connaissent pas, qui ne sont pas allés à cette source de nourriture. Donc elles ont un code partagé par toutes les abeilles de la ruche, et c'est
vous
le même
code,
dans toutes les espèces.
Vous dites code, vous dites pas langage, mais c'est quand même un vrai code.
Tout à fait, c'est un vrai code, c'est-à-dire ça veut dire que par exemple tel angle de danse, ça veut dire 45 degrés par rapport à la position du soleil, et tant de cycles de danse par minute, ça veut dire tant de mètres parcourus. Donc c'est un véritable code qui est respecté d'une abeille à l'autre et qui permet aux unes et aux autres de lire cette danse que l'abeille donc butineuse est en train d'effectuer dans la ruche pour dire aux autres où est-ce qu'il faut y aller.
Est-ce que vous-même, Martin Jurfa, vous parlez abeille, vous décodez leur danse ?
C'est-à-dire que pour quelqu'un qui connaît les travaux de von Frisch, et c'est pas surprenant, donc il suffit de se plonger un peu dans ce qu'il a fait, il y a plein de livres de vulgarisation là-dessus, n'importe qui aura compris comment fonctionne ce code peut regarder une abeille danser et se dire « Ok, je comprends qu'elle vient du nord-ouest et que la source de nourriture se trouve à 340 mètres, par exemple. » C'est un code, donc il peut être lu.
Il peut être lu donc par nous, humains, et il montre aussi que les abeilles, alors elles ont le code pour transmettre, mais elles ont aussi la capacité de s'orienter, une sorte quoi de représentation dans leur petit cerveau des lieux, représentation spatiale.
Effectivement, donc il y a déjà plusieurs stratégies de navigation plutôt céleste, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser la position du soleil en tant que boussole d'orientation, qu'elles peuvent aussi apprendre des marques de terrain, comme on le fait nous aussi, de savoir que par exemple il faut tourner à droite ou à gauche pour se repérer. Donc ça, c'est assez connu. Dans les dernières années, donc, il y a eu encore une nouvelle hypothèse qui est surgie, soutenue par plusieurs études, c'est-à-dire qu'elles peuvent construire une sorte de carte cognitive de l'environnement. De la même façon que nous sommes capables de nous représenter notre environnement sous forme de carte, savoir que par exemple, par rapport à la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe va se trouver ici et que par exemple, le centre X va se trouver dans telle position relative par rapport aux autres marques de terrain. Donc, de même, l'abeille paraît être capable de construire une carte de son environnement pour pouvoir naviguer dedans de façon plus efficace.
Totalement incroyable. Elle ne cesse pas de nous surprendre, les abeilles. Et vous avez donc démontré avec votre équipe, alors tout d'abord que les abeilles ont le sens des nombres et qu'elles comprennent le zéro. Ça paraît insensé. Alors c'est quoi le sens des nombres ou la manière de compter des abeilles, Martin Jurfa ?
Donc, tout d'abord, vous parlez d'une étude qui a été faite par une de mes post-doctorantes, Scarlett Howard, une jeune Australienne qui travaille chez nous, qui est absolument brillante et remarquable. Mm-hmm. Et donc, elle avait pu montrer effectivement que des abeilles qui sont entraînées à choisir toujours en fonction de plus petits que, c'est-à-dire pas en fonction de nombre, mais par exemple de savoir qu'une quantité est plus petite qu'une autre, et en variant ces quantités, de sorte qu'il faut aller toujours vers le plus petit, quand on leur présente un objet tout seul, contre rien, ben elles vont vers rien. Ayant compris que, effectivement, rien, c'est moins que 1. Donc ça, c'était une étude absolument remarquable qui montrait cette présence du zéro, comme vous l'avez décrit. Ce qu'on a fait dernièrement, c'est aller beaucoup plus loin, dans le sens où, maintenant, il ne s'agit plus d'apprendre à distinguer une quantité où il y ait plus que ou moins que, comme ça avait été fait dans cette étude, mais d'appréhender des nombres par eux-mêmes, de façon absolue. 3, c'est 3, et ce n'est pas 4. Ou 2, c'est 2, et ce n'est pas 3.
Et elles en sont capables, les abeilles.
Absolument. C'est ce qu'on vient de démontrer dans l'étude que vous avez mentionnée, qui est parue aujourd'hui, et qui effectivement montre cette capacité à appréhender des nombres par eux-mêmes, non pas de façon relative, de dire plus grand que ou plus petit que, mais en fonction du nombre lui-même.
Et comment est-ce qu'on fait pour faire compter les abeilles ou compter avec les abeilles ?
Dans une expérience, donc il faut savoir que ces animaux sont extrêmement coopératifs dans la mesure où vous les nourrissez. C'est-à-dire qu'une abeille qui est programmée, ben logiquement, pour faire des centaines de vols à la journée pour obtenir la gouttelette d'eau sucrée, l'équivalent du nectar qu'elle doit ramener à la ruche, va venir dans le laboratoire pour travailler pour vous dans des dispositifs, dans des appareils que vous aurez conçus pour lui poser des questions. Par exemple, est-ce que tu es capable d'apprendre ce nombre par lui-même ? Dans la mesure où, par exemple, vous récompensez un nombre, par exemple une image avec 3 spots, 3 cercles, et contre une image qui a 4 ou une image qui en a 2, etc., l'abeille va venir régulièrement pour obtenir sa récompense sur 3 et pas sur 4 et pas sur 2. Tout en prenant la précaution, évidemment, que si une fois c'est 3 cercles, la prochaine fois ça sera 3 carreaux, puis 3 triangles, et ainsi de suite, tout varie. C'est pas l'objet qui compte, mais c'est le sens abstrait du nombre qui est récompensé.
Ah oui, elles arrivent à repérer le nombre.
Absolument, c'est ce qu'elles apprennent à maîtriser indépendamment des objets qui sont utilisés pour représenter la quantité. C'est la quantité elle-même qui est quelque part apprise et extraite de cette problématique et utilisée par l'abeille pour obtenir la récompense.
Jusqu'où nous entraînera l'intelligence de ces abeilles que vous traitez ? On a bien compris avec respect que vos recherches nous invitent à traiter nous aussi avec respect. Nouvelle question tout de suite pour vous, Martin Jurfa, soulevée par Mathias Germain du mensuel La Recherche.
Vous avez démontré que les abeilles savent compter. Est-ce que vous allez maintenant passer à un niveau supérieur et leur faire passer le test du miroir qui permet de savoir si elles ont conscience d'elles-mêmes ?
C'est pour quand, Martin Jurfa, le test du miroir pour les abeilles ?
Peut-être il faudrait expliquer à nos amis du public qu'est-ce que c'est le test du miroir.
Absolument.
Donc en fait, le test du miroir est un test très utilisé dans la cognition chez l'animal pour montrer qu'on a une conscience de soi-même, de soi-même en tant qu'individu, ici, là, à un moment donné. Et il consiste à, par exemple, à placer un spot de peinture blanche, par exemple, sur la tête de quelqu'un, sans qu'il s'aperçoive. Ce n'est au moment qu'il va regarder dans un miroir qu'il va découvrir qu'il a donc cette tache blanche sur la tête qui va effectivement le gêner. Et donc, en regardant son image dans le miroir et sachant que ce qu'il voit dans le miroir, c'est lui-même justement, il va enlever la tache. Donc, il voit le reflet de son image comme soi-même.
Et il se reconnaît aussi, s'il a une tache ou pas une tache, il voit bien la différence.
Exactement. Donc, c'est une conscience de soi donc, qui est exprimée par le test du miroir qui est à la base de cette question. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait ce test chez l'abeille. Je pense que c'est envisageable, comme bien d'autres choses. La question importante là, c'est peut-être pas tant le test qui est juste un moyen
bien
de
sûr.
Mettre en évidence quelque chose, mais la question intéressante serait est-ce que les abeilles ont une conscience ?
Ben oui, ça paraît fou. Conscience d'elles-mêmes. Enfin, oui,
exactement.
Conscience qu'elles existent.
Exactement. Est-ce qu'elles savent qu'elles sont elles, avec une histoire particulière qui peut-être différer d'une abeille à l'autre, parce qu'elles n'ont pas forcément toutes la même expérience. Elles n'ont pas toutes fait les mêmes vols de butinage, parcouru les mêmes endroits, etc., etc. Est-ce qu'elles arrivent à intérioriser cette expérience pour créer une conscience d'elles-mêmes ? Pour l'instant, on n'est pas là, mais on a conçu quelques idées pour aller dans ce sens-là. Effectivement, c'est une question importante parce que, comme pour tout animal, ça soulève encore une fois, et on revient encore à la même problématique, si un individu est conscient, a une conscience, Quel est mon rapport par rapport à lui? Quelle est la façon dont je m'engage ou j'engage des rapports quotidiens avec cet animal? Probablement avec un respect tout à fait différent par rapport à ce que j'ai fait avant la démonstration de cette conscience. Et donc voilà.
Absolument. Et vous-même d'ailleurs, de travailler comme ça avec des abeilles, ça change votre rapport à ces insectes sociaux? Vous voulez regarder autrement comme des individus, comme une forme d'intelligence collective? Parce qu'on pense plutôt à ça quand on pense aux abeilles.
Non, moi je pense à une intelligence individuelle avant tout, qui effectivement, combinée, peut faire surgir des propriétés collectives tout à fait plastiques et entre guillemets intelligentes. Mais avant tout, il y a ce que les individus vont stocker dans leur cerveau individuel, les mémoires, l'expérience individuelle. Donc moi je regarde comme un objet d'étude, comme un objet de préoccupation aussi quand je vois ce qu'elles subissent. Et donc je suis très sensible à ceci parce que je les respecte profondément.
Ça vit combien de temps une abeille si ça n'est pas menacé par les pesticides et autres ?
Ça dépend de la période de l'année, parce qu'il faut savoir que la vie d'une abeille est dépendante de l'intensité de son activité. Par exemple, en été, quand les abeilles sont à fond dans tout ce qu'elles font par rapport au vol de butinage, elles peuvent vivre depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie à peu près 3 semaines. C'est pas beaucoup. Mais il faut savoir que 3 semaines, il y a quand même des milliers des vols qui sont faits dans cette période-là, donc il y a une activité extrêmement intense. Parmi les abeilles qui vont par contre naître à la fin de l'été, qui vont peut-être survivre l'automne, voire l'hiver à l'intérieur de la ruche, puisqu'il n'y a pas trop de travail à faire, on peut avoir des abeilles qui vont vivre éventuellement 2-3 mois. Donc ça varie dépendant de l'activité.
Et dans ce cas-là, j'imagine que ces individus abeilles-là, qui vivent longtemps, ont le temps d'amasser plus d'informations, d'avoir une plus grande mémoire, une plus belle cartographie de leur environnement ou...
C'est à voir, c'est à prouver. Pour l'instant, ce n'est pas étudié. Il faut se dire d'un autre côté qu'elles ne sortent pas trop, puisque c'est l'hiver. Donc peut-être non, peut-être oui. Il faut effectivement étudier cette problématique.
Champ de recherche ouvert autour de la question: comment se mettre dans le cerveau d'une abeille et même d'une reine des abeilles? Réponse bluesy entre le Mali et les États-Unis avec Toumani Diabaté et Taj Mahal sur RFI Queen Bee. Des abeilles sur RFI, extrait de l'album Cool Anjan du Malien Toumani Diabaté et du bluesman américain Taj Mahal. C'est pour vous, cadeau Martin Jurfa.
Merci beaucoup.
Autour de la question: comment se mettre dans le cerveau d'une abeille et comment capter à l'intérieur même de la ruche le chant mystérieux d'une reine des abeilles? Ben écoutez voir ce que ça donne. recueillis par les chercheurs Yves Leconte de l'INRA Avignon et Martin Benzig de l'Université de Nottingham. Ce chant d'une reine des abeilles fait un peu penser à des mammifères marins, un chant de baleine pratiquement, Martin Jurfa.
Si vous voulez.
Et pas pour vous, hein, vous reconnaissez bien la reine des abeilles.
Oui, en fait, ce qu'on est en train d'écouter là, c'est quelque chose de moins idyllique, entre guillemets, que les chants des baleines, puisque c'est, si je ne me trompe pas, parce que c'est difficile comme ça, en écoutant tout simplement sans voir trop les images et le contexte où ça a été pris, c'est un contexte plutôt de dispute, de royauté, quelque part.
Ah, bah, je vous propose d'écouter la suite, justement, de la dispute.
D'accord.
Apparemment, Martin Jurfa, là, on est effectivement dans une vraie dispute entre quoi ? Deux reines des abeilles qui viennent de naître, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une colonie a besoin d'une nouvelle reine, des ouvrières qui sont bien prévoyantes ne vont pas simplement préparer, c'est-à-dire nourrir une larve pour qu'elle soit reine, mais elles vont nourrir plusieurs. Donc, et plus celle qui sortira plus rapidement sera celle qui sera normalement la reine. C'est-à-dire qu'elle prévoit un stock de reines potentielles. Mmh. Et ce qui va se passer, logiquement, c'est qu'on peut arriver à une situation de compétition. Il y aura une qui est d'abord, qui va émerger d'abord, et il y a d'autres qui sont en train de se développer. C'est à ce moment-là où on va avoir ces sons-là. La première qui va sortir donc, va émettre des sons pour dire « Attention les filles, je suis ici, gare à vous ». Et effectivement, les autres qui sont déjà peut-être formées, mais ne sont pas encore sortir de leurs cellules, peuvent répondre et dire « on sait que tu es là, mais on va voir qui est le plus fort ». Et typiquement, il peut avoir des luttes entre ces reines-là, et c'est la gagnante qui va rester reine de la colonie.
Et voilà la reine de la colonie, mais est-ce que ça joue aussi quand vous étudiez le cerveau des abeilles et leur plasticité ? Elles pourraient toutes devenir reines si elles étaient nourries comme il le fallait, c'est ça ?
Dans la mesure où il y a les, parce qu'il y a aussi une composante génétique importante, dans la mesure où il y a les gènes qui correspondent au sexe féminin, puisque les ouvrières c'est aussi des femelles. Donc effectivement, si la nourriture est celle qui correspond à une reine, toute femelle pourrait devenir reine.
Est-ce que vous étudiez plus particulièrement la communication avec la reine, autour de la reine, ou c'est pas ça qui vous intéresse en tant que chercheur spécialiste des capacités cognitives des abeilles?
On ne travaille pas sur ces sujets parce qu'on ne peut pas malheureusement tout assurer et assurer tous les contextes. Nous nous intéressons plutôt aux capacités cognitives des individus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vois ces individus comme une source potentielle de connaissances, de cognition, de mémoire, d'apprentissage. Et donc, on n'est pas forcément dans l'étude de ces aspects-là. Or, ce qui serait intéressant, et c'est ça où peut-être votre question est tout à fait pertinente, c'est dans quel mesure, même dans des interactions qui sont peut-être génétiquement codées comme reine et ouvrière, on peut avoir aussi des composantes d'apprentissage, de plasticité, jusqu'à quel point des comportements qui paraissent innés peuvent être modifiés par l'expérience. Ça serait intéressant de voir ceci, effectivement.
Elles ont des sens très développés, hein, ces abeilles. Donc on voit qu'elles communiquent, donc elles ont une ouïe. Elles savent reconnaître des formes, des couleurs. Au niveau des sens, c'est quoi dans le cerveau de l'abeille ? Quels sens elles ont, les abeilles ?
Donc, ce qui est absolument fascinant, et c'est pour ça qu'elles sont un sujet d'étude pour les neurobiologistes, ceux qui s'intéressent au cerveau et au sens, à la perception, c'est que donc, ce cerveau est construit, malgré les différences énormes évolutives et les différences donc, apparentes en forme, il y a beaucoup de centres et d'architectures qui ressemblent à notre cerveau. Par exemple, il y a des centres visuels extrêmement développés, il y a des centres olfactifs séparément, qui prennent l'information des récepteurs olfactifs sur les antennes, qui sont aussi extrêmement développés. Il y a des centres gustatifs qui reçoivent les voix ou les informations des récepteurs gustatifs, des sens mécanosensoriels pour ce qui serait l'équivalent du toucher qui se fait avec des poils sur les antennes. Il y a plein de sensorialités extrêmement riches, des sensorialités qui sont inimaginables pour nous. Par exemple, elles sont sensibles aux champs magnétiques, elles peuvent repérer des champs électrostatiques et elles ont des récepteurs spécialisés pour toutes ces voix-là ou pour toutes ces informations qui sont absolument inexistantes pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement que ce cerveau a des centres spécialisés pour traiter ces informations, comme tout cerveau, mais aussi qu'il est capable de les combiner pour avoir des représentations multimodales dans des régions qui combinent ceci. Exemple, quand on pense grand-mère, grand-mère ce n'est pas simplement l'image de votre grand-mère, mais c'est peut-être aussi l'odeur de la soupe de grand-mère, c'est peut-être l'odeur de la maison, il y a toute une sensorialité associée au souvenir qui va au-delà d'une image. Donc ceci est possible parce que notre cerveau est capable de combiner combiner de façon multimodale différentes informations pertinentes à une expérience. Et c'est le cas aussi du cerveau de l'abeille.
À l'abeille, elle a en mémoire toutes ces sensations-là. Vous arrivez comme ça, effectivement. On ne peut pas se mettre dans le cerveau de l'abeille, mais on peut imaginer.
On peut imaginer, par exemple, que la rose n'est pas juste une image de rose, mais qu'il y a toute une dimensionnalité d'odeur, de forme, que tout est combiné pour créer la mémoire, entre guillemets, de la rose, par exemple.
Ah, ça doit être assez merveilleux, finalement, dans le cerveau de l'abeille. Ça peut être merveilleux.
Et c'est pour ça qu'on l'étudie.
Absolument. Vous parlez aussi des perturbations, enfin de leur sensibilité, évidemment, les perturbations infligées aux abeilles, on le sait, mais aussi de leur sensibilité, de leur sens. Un de nos auditeurs, Gaël, à Libreville, au Gabon, nous demande pourquoi est-ce qu'on dit que la 5G, par exemple, perturbe le fonctionnement des abeilles. Est-ce que ça les perturbe
J'ai pas compris, excusez-moi.
La 5G
là.
La 4G ou la 5G?
Oui, je comprends. Donc, il y a des études contradictoires par rapport à ceci. Donc, effectivement, les ondes de portables, les ondes téléphoniques, etc., donc les ondes de radiofréquence, je n'oserais pas dire, pour l'instant, n'ayant pas travaillé dessus, que c'est dans un sens ou dans l'autre, parce que je connais deux études et ils montrent exactement le contraire l'un de l'autre. Donc, il me semble que pour arriver à une conclusion scientifique sérieuse, il faut reprendre et avoir donc une troisième version, peut-être plus élaborée, de ces études pour savoir ce qu'il en est.
Autour de la question comment se mettre dans le cerveau d'une abeille, je propose tout de suite une nouvelle question soulevée par un biologiste et grand blogueur de science, Léo Grasset, qui se pose toujours les bonnes questions sur sa chaîne YouTube Dirty Biology. Il était, il y a quelque temps, notre invité et il s'interrogeait sur ça.
Le vote chez les abeilles est fascinant, oui. Par exemple, quand les abeilles décident de changer de colonie, en tout cas, il va falloir passer d'un endroit à un autre parce que là, on a épuisé toutes les ressources. Où est-ce qu'on va ? Donc elles envoient des chercheuses, en fait, et toutes les chercheuses reviennent à la colonie pour faire leur rapport, entre guillemets. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'elles votent ? Comment est-ce qu'on arrive à un consensus au niveau de la colonie entière pour dire, ok, bah, on va tous aller dans cette direction-là. Et pas, moi, je vais là-bas, et puis moi, je vais là-bas, et puis on se reverra la semaine prochaine.
Mais comment elles communiquent, déjà, les abeilles ?
Elles dansent. Elles font des 8, elles font des formes géométriques. Mais je serais très curieux de savoir exactement la mécanique qui est derrière le vote et le comprendre, parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, je pense. Je serais très curieux d'en savoir plus là-dessus.
Elles votent, les abeilles, Martin Jurfa. Comment elles font pour voter, pour s'entendre, en fait ?
Donc, effectivement, il y a un processus de quorum qui doit être atteint pour qu'une décision soit prise. C'est
un processus de quorum dans la colonie d'abeilles.
Exactement. Il faut imaginer, par exemple, que quand il y a deux endroits potentiels intéressants, on va avoir des abeilles qui reviennent les unes d'un endroit et les autres de l'autre endroit et qui veulent, effectivement, les unes et les autres avertir leurs congénères de la présence de ces sites respectifs. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de la qualité du site, il y aura peut-être une différence dans la volonté d'informer entre les unes et les autres. Donc, les unes vont danser, les autres aussi, mais peut-être qu'une danse sera plus intense pour le meilleur site que pour le site qui est de moindre qualité. Dans les deux cas, on va voir des abeilles qui vont suivre les danses, mais peu à peu, il y aura un processus où on va se décanter progressivement vers le site de plus grand intérêt. C'est-à-dire qu'on va atteindre un quorum et jusqu'au moment où ce quorum est atteint, on va suivre les deux danses plus ou moins jusqu'au moment où progressivement, on va construire un consensus supérieur pour les danses qui indiquent le site de qualité supérieure. Ainsi, on va voir qu'à la fin, presque tout le monde va dériver vers ce site-là et va finir par ignorer le site de moins de qualité. Donc il y a un consensus qui s'établit, un quorum qui est atteint et qui permet de prendre des décisions pour aller vers le bon site.
Qui pourrait nous inspirer un peu, nous aussi, nous les hommes, hein, ce consensus autour du vote. Est-ce que vous pensiez, vous Martin Jurfa, quand vous avez en tant que neuroscientifique commencé à étudier les capacités cognitives des animaux, des insectes et en particulier des abeilles, est-ce que vous pensiez faire autant de découvertes? Parce qu'on a l'impression que dès que vous tirez un fil du calcul, du compte, enfin qu'à chaque fois on découvre de nouvelles capacités dans ce tout petit cerveau d'abeille.
C'est difficile parce qu'en fait, comme disait Carl von Frisch, l'abeille est un puits magique. C'est-à-dire que plus on va tirer avec des seaux de l'eau de ce puits, plus il restera d'eau à tirer. C'est ce que j'ai appris au cours des années. Effectivement, c'est une grande vérité puisque chaque jour, elle n'arrête pas de nous surprendre avec tout ce qu'on peut découvrir chez elle. Et vous me demandiez si quand j'ai commencé...
Oui, vous vous attendiez à tant de découvertes. Hein.
En vérité, je ne sais pas trop ce que j'attendais, mais je savais que c'était une passion. Je savais que j'étais en train de faire ce qui me passionnait, qui est la compréhension des phénomènes du vivant, essayer de voir comment ça se passe, et que j'avais devant moi une mine d'or. Ces petites abeilles sont une petite mine d'or, dans le sens où je me disais, tu veux comprendre l'apprentissage, tu veux comprendre la mémoire. Eh bien là, tu as devant toi un petit animal qui fait des centaines de vols de butinage pendant une journée et pendant plusieurs journées, et ces vols de butinage dépendent exclusivement de l'apprentissage et de la mémoire, c'est-à-dire d'avoir appris qu'il faut exploiter telle et telle fleur et pas une autre. Donc tu as là une mine d'or à exploiter, un animal dont toute la biologie dépend de l'apprentissage et de la mémoire. Que veux-tu de plus ? Plonge-toi dedans, et c'est ce que j'ai fait.
Finalement, toutes leurs capacités dépendent, vous dites, des abeilles, dépendent de l'apprentissage et de la mémoire. C'est pas inné, elles n'arrivent pas en sachant... Ben, leur environnement change, évidemment, mais elles apprennent tout, les abeilles.
C'est-à-dire que par rapport au butinage, je dirais que l'essentiel, c'est l'apprentissage et la mémoire. Vous savez, les abeilles ont ce qu'on appelle la constance florale. C'est quelque chose qui avait été déjà observé par Aristote, et n'importe qui peut l'observer. C'est qu'une abeille dans la nature, lors d'un vol de butinage, ne va pas changer de la rose à la marguerite, de la marguerite au tournesol. Elle va rester toujours fidèle sur une espèce donnée, par exemple le tournesol, jusqu'au moment où cette espèce arrêtera de produire du nectar. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi sur le marché vous avez des miels de tournesol, des miels de lavande, etc. Parce que les abeilles restent fidèles pendant un moment donné, tant que cette fleur est intéressante. Donc elles restent fidèles à exploiter cette espèce-là. Et pourquoi elles restent fidèles ? À un moment donné, on disait, ben, c'est des êtres limités, frustres, qui ne sont pas capables de voir qu'à côté, il y a une autre espèce qui fournit de la récompense. Au contraire, on comprend maintenant que cette fidélité est justement le reflet du fait d'avoir appris et mémorisé de façon très efficace les traits distinctifs de l'espèce exploitée. Et que c'est un choix de travailler à la chaîne pour être plus efficace, et qu'on utilise cette mémoire, cet apprentissage pour travailler à la chaîne et être donc plus efficace dans l'exploitation des sources alimentaires.
Oui, efficace, économe, sophistiqué. C'est une autre forme d'intelligence finalement. On peut parler d'intelligence. Pour les abeilles, Martin Jourfa.
On peut, certainement, mais le problème, c'est que si quelqu'un vous demande de définir le mot intelligence, peut-être que vous allez trouver plein de définitions contradictoires. Ce qu'on peut dire, certainement, que c'est un système extrêmement plastique, je veux dire par là, capable de changer son comportement en fonction de l'expérience et de le rendre adapté à la situation qui peut être changeante.
Et parmi les insectes, justement, les insectes sociaux, hein, comme les abeilles, où se situe l'abeille ? Elle est plus forte, plus douée, plus plastique que les autres ?
Vous savez, c'est une très belle question et on la pose souvent, et on peut avoir deux façons de répondre à cette question. D'un côté, vous pouvez dire oui, effectivement, c'est l'individu ou l'espèce la plus cognitive, parce que vous savez, c'est elles qui ont le niveau de socialité plus élaboré, elles ont la danse, comme vous disiez tout à l'heure, que d'autres espèces n'ont pas ou n'ont pas encore élaboré de cette façon-là, de façon évolutive, donc c'est les meilleurs. D'un autre côté, vous pourriez prendre un autre angle d'attaque pour répondre à cette question et dire oui, pour l'instant, c'est les meilleurs. Mais la raison pour laquelle elles sont les meilleures, c'est parce que les chercheurs n'ont pas encore pris le temps, parce que ça coûte de l'effort et du temps, de développer les tests et les procédures pour mettre à jour les capacités des autres espèces. Donc c'est vrai qu'on s'est concentré sur l'abeille parce qu'elle inspire, parce que c'est un objet d'étude depuis, comme vous disiez, le Moyen-Âge et même avant.
Oui, hein,
même
avant.
La relation de l'homme et l'abeille vient de la préhistoire. Donc c'est vrai qu'on s'est concentré sur elle, mais le fait est que peut-être on n'explore pas suffisamment ce que d'autres espèces peuvent faire. Oui. Et c'est peut-être alors qu'on va avoir aussi des surprises intéressantes chez d'autres espèces aussi.
D'autres aussi, hein, peut-être savent faire peut-être leur miel. Peut-être, autour de la question comment se mettre dans le cerveau, dans la peau d'une abeille. Je propose, chers amis auditeurs, de partager au moins leur danse, donc la danse frénétique de l'abeille, revisitée par le groupe Scrap de percussion, avec un quatuor à cordes. On entre dans la danse des abeilles et ça fait le buzz sur RFI. Thank you. La danse frénétique de l'abeille sur RFI, revisitée par les percussionnistes de Scrap avec un quatuor à cordes. Ça vous plaît? On s'y croirait presque, Martin Jurfa?
Magnifique musique. Magnifique.
Il faut dire que les abeilles ont beaucoup inspiré aussi les compositeurs. Hein. On se rappelle du vol du Bourdon, de Rimsky-Korsakov. Inspire aussi les chercheurs, on l'a dit. Et les chercheurs de toute discipline. On a parlé de la Chine, dont vous revenez, et de ces centres de recherche interdisciplinaires. Finalement, avec respect, hein, comme vous le faites, Martin Jurfa, dans votre laboratoire, se mettre dans le cerveau d'une abeille, dans la tête d'une abeille, ça se fait avec des éthologues, avec des roboticiens, avec des informaticiens, avec des spécialistes en neurosciences comme vous. C'est vraiment une recherche finalement interdisciplinaire?
Absolument, parce que aujourd'hui, vous savez, le thème de la cognition est tellement complexe que aucune discipline pourra quelque part prétendre à répondre à cette complexité par elle-même. Il faut effectivement la convergence de différentes forces et comme vous dites, donc c'est par l'apport des gens qui s'intéressent aux molécules de la mémoire, par ceux qui sont capables de concevoir un test de comportement, par ceux qui sont capables d'identifier des neurones responsables de cette tâche-là, et ainsi de suite. Donc, par toute une multiplicité d'apports et de savoir-faire qu'on va essayer de trouver les réponses à ces questions-là. Par rapport à cette pluridisciplinarité, je voudrais quand même signaler quelque chose qui me paraît important, c'est que le CNRS a fait, pour la première fois en début d'année, une grande réunion multidisciplinaire à Paris autour du thème de l'abeille qui s'appelait Société d'abeilles, Société humaine.
Et oui.
Donc une coexistence historique. Et on a eu effectivement l'apport des gens qui venaient de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'ethnologie, des biologistes comme moi, des gens qui venaient de la chimie. C'était extrêmement riche, extrêmement riche. Et c'est vrai qu'on a compris beaucoup de choses en se parlant les uns aux autres.
Et les abeilles nous inspirent, hein, finalement, inspirent tous les champs disciplinaires et tous les hommes. Hein, ils ont inspiré les littéraires, les philosophes, les historiens et évidemment les scientifiques. Elles intéressent aussi aujourd'hui les abeilles, les chercheurs roboticiens et physiciens, notamment ceux du programme européen Technologies Futures et Émergentes, qui ont même conçu des mini-robots abeilles capables de s'intégrer, et oui, au sein de ces groupes d'insectes sociaux dans leur ruche. Alors, grâce à leur apparence, grâce à leur chaleur, grâce à leur mouvement, ils dupent les abeilles et arrivent même à communiquer avec elles pour mieux comprendre leur comportement, mais aussi pour faire avancer la recherche, cette fois-ci non pas sur notre intelligence, mais sur l'intelligence artificielle des robots. Je propose d'écouter José Allois, il est professeur de physique au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain de l'université Paris Diderot. Il décrit ces mini-robots abeilles, sortes de petits pots de yaourt de 2-3 cm introduits dans une vraie ruche, au micro de notre reporter Charlie Dupiot.
Ce que fait le robot abeille, c'est qu'il peut vibrer ou changer sa température. Et les abeilles sont sensibles aux vibrations, aux changements de température. Le robot va réagir à la présence ou à l'absence des abeilles. Donc, il détecte la présence ou l'absence des abeilles. Mais les abeilles, elles n'explorent pas tout le temps. À un moment, elles se mettent toutes d'accord et elles restent soit à gauche, soit à droite, mais tout le monde du même côté. Et dans la ruche, les abeilles ont des tas de comportements, dont celui de choisir les lieux où les températures sont optimales. Et elles ont une température préférée. Ces deux robots qui sont fixes, il y en a deux parce qu'il y a gauche et droite. Donc ils savent s'il y a une abeille à côté d'eux ou pas. Et ils peuvent compter aussi le nombre d'abeilles, s'il y a beaucoup d'abeilles ou pas beaucoup d'abeilles. Et donc ils adaptent leur comportement à la présence ou à l'absence d'abeilles. Par exemple, ils peuvent changer leur température, changer la manière dont ils vibrent. Et donc l'un peut devenir moins intéressant.
Et donc ils changent sa température.
Voilà. Et à ce moment-là, il est plus attirant pour les abeilles, parce que les abeilles se regroupent aussi pour augmenter ou garder leur température. D'ailleurs, elles le font pendant l'hiver. Pourquoi est-ce que les abeilles passent l'hiver? Parce qu'elles se regroupent dans la ruche et elles maintiennent la température de la ruche en hiver. Donc les abeilles sont capables de moduler ça, la température à l'intérieur de la ruche, etc.
Et là, c'est comme ça qu'on leurre les abeilles?
C'est très difficile de leurrer des abeilles. Il y a d'autres roboticiens qui essayent aussi. C'est pas facile. La première question, c'est est-ce qu'en observant des animaux, on peut générer des modèles mathématiques? Et ces modèles mathématiques vont être capables de générer des comportements semblables. Ça, c'est la première étape. C'est très compliqué à faire, en fait. Et on a utilisé des outils d'intelligence artificielle pour essayer d'améliorer la manière dont on génère ces modèles. Mais l'avantage qu'ajoutent les robots, c'est qu'il y a une véritable interaction avec le vivant. Ce que les simulations ne font pas, évidemment. Donc là, on a une vraie interaction. On interagit avec le vivant.
Ça vous inspire quoi, Martin Jurfa? Ça vous fait un peu peur? Ça vous donne envie, ces mini-robots abeilles dans les ruches?
Oh, je trouve que c'est absolument fascinant et je pense qu'effectivement, quand on connaît quelque chose, on doit être capable de construire ceci. Et donc, je trouve que c'est absolument pertinent d'initier cette démarche parce que ça veut dire que si on connaît quelque chose, on est capable de le reproduire dans un système artificiel. Donc, c'est un beau test de savoir jusqu'à quel point on connaît notre système biologique, de pouvoir le transférer dans un robot. Donc, je suis tout à fait admiratif de ces travaux. Je pense qu'ils sont importants par exemple, test.
En tant que test, oui. C'est ça, parce qu'en même temps, un petit robot abeille n'aura jamais la complexité, la sophistication du vrai cerveau d'une abeille.
Certainement pas, mais ça nous permet par exemple de mettre à l'épreuve certaines hypothèses, par exemple à l'utilisation de certains signaux, etc., et voir jusqu'à quel point on est correct ou non par rapport à l'élaboration de ces hypothèses. C'est un bon moyen.
Parce que ce que disait aussi José Allois, c'est qu'il est difficile de les tromper, de les leurrer, les abeilles. Elles sont pas folles, les guêpes, hein.
Logiquement.
Même si ce sont des abeilles.
Tout à fait, logiquement, oui. Il y a des gens, par exemple, qui sont allés un peu plus loin dans la robotique des abeilles, dans le sens où ils ont construit des robots qui simulent la danse. Vous voyez, donc imaginez une petite robot qui va faire les mouvements stéréotypés de la danse et qui serait capable donc de dire 325 mètres à l'ouest, par exemple, par des mouvements reproduisant ce que fait une butineuse qui revient d'une telle source alimentaire. Ça marche, mais c'est loin d'avoir le succès d'une véritable abeille. Comme vous dites, les abeilles ne sont pas dupes, forcément.
Et oui, c'est
Elles peuvent repérer certaines informations, mais il y aura plein d'autres que nous ne connaissons pas forcément encore tout à fait, qui sont absentes chez le robot.
Et oui, c'est justement ce champ de recherche immense et cet étonnement, cet émerveillement face aux capacités cognitives des abeilles qui peut nous donner envie de les préserver, parce que vous l'avez dit au début de cette émission, vous les étudiez, vous vous mettez dans leur cerveau, mais avec le plus grand respect. Elles sont menacées de toutes parts, par les pesticides, par nos modes de vie. Ça vous inquiète? C'est un vrai souci?
Profondément. Mm-hmm. Et je voudrais donc profiter de cette occasion pour faire un appel donc à la sensibilisation par rapport à cette problématique. Donc un appel qui doit engager les citoyens, les décideurs politiques, etc. Donc, il faut à un moment donné changer certaines pratiques parce que non seulement il s'agit. Le débat va au-delà des abeilles, si vous voulez. Le débat va. Quelle est notre responsabilité envers l'environnement? Et je pense qu'on est en train de faire des paris un peu fous, un peu irresponsables par rapport à ceci. Et les abeilles sont, par exemple, un des êtres dans lesquels on voit les conséquences dramatiques de ces paris irresponsables. Donc, effectivement, nous menons un certain pan de recherche dans lequel on va tester, par exemple, l'impact, vous avez parlé de pesticides, mais on peut parler d'autres traitements, comme par exemple l'excès de plomb ou d'autres minéraux ou d'autres métaux, etc. Quel impact vont avoir ces traitements, ces molécules, ceci ou cela, dans les capacités cognitives des abeilles? Est-ce qu'une abeille, par exemple, qui a été traitée avec telle ou telle dose, qui nous est déclarée comme sublétale, donc c'est la terminologie pour dire, pour rassurer le consommateur et dire oui,
sublétale,
vous pouvez ça veut dire que vous pouvez l'employer parce que vous n'allez pas produire la mortalité des êtres vivants autour de vous.
Mais
on est capable de montrer que même si ces individus vont effectivement arriver à l'âge adulte, ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des lésions cérébrales qu'on va repérer par la suite à l'application de ces traitements. Donc c'est là où je dis, il faut évidemment être conscient de ceci et changer des attitudes. De la même façon, donc, les monocultures sont quelque chose d'extrêmement mauvais pour les abeilles. Les abeilles donc, doivent avoir le choix de pouvoir, comme on parlait tout à l'heure de quorum, de choix démocratique, etc., elles doivent pouvoir faire cette comparaison, de pouvoir optimiser donc, leur croissance, la croissance des larves, etc. Imaginez si on vous force à nourrir vos enfants toujours avec la même nourriture.
C'est
pas possible, c'est bien triste.
Et oui, c'est bien triste et ça ne peut pas fonctionner, effectivement.
Exactement.
Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment à la fois pour leur rôle de pollinisateur, pour leur miel évidemment, mais aussi parce qu'on se rend compte que les abeilles sont des êtres, des individus extraordinaires. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Vous rêveriez d'être une abeille, Martin Jurfa?
Pas forcément, qu'en tant qu'humain, j'ai beaucoup de choses à faire et je suis bien content. Mais comme je dis, je suis profondément admiratif et respectueux. Or, ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est mener aussi le débat au-delà des abeilles, dans le sens où certes, elles sont merveilleuses et donc on est sensible par rapport à ce qui leur arrive, mais il faut se poser la question sur plein d'autres petits animaux qui sont autour d'elles dans la nature qui sont aussi en train de subir les conséquences de ces pratiques.
Vous êtes là aussi pour dénoncer ces pratiques. Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce qu'il vous reste à découvrir énormément de choses, mais qu'est-ce que vous aimeriez encore découvrir au-delà du zéro, du calcul et de ces abeilles qui savent compter ?
Plein de choses, tellement plein de choses. Mais une question qui m'interpelle, par exemple, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, celle de la conscience. J'aimerais pouvoir comprendre si effectivement une abeille a une conscience de soi. Et non pas par le fait simplement de jouer sur le mot conscience, parce que ceci a des implications philosophiques extrêmement importantes. Donc, par rapport à nous-mêmes, à notre position dans la nature, etc., est-ce que nous sommes tellement uniques comme on le croit ? Donc, répondre à cette question par le biais de l'abeille, je crois que c'est un pari intéressant.
On vous souhaite de continuer, hein, poursuivez vos recherches. Merci beaucoup Martin Jurfa d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Occitanie à Toulouse. Je vais vous laisser retourner à vos chères abeilles au centre de recherche sur la cognition animale. Et puis vous revenez quand vous voulez nous faire partager, je ne sais pas, les calculs des abeilles, la manière dont vous avez peut-être pénétré un peu de leur conscience. Merci beaucoup Martin Jurfa, merci à la Technique à Toulouse.
Merci.
La question et autour des abeilles, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Toute notre fine équipe, Hugo Violas à la réalisation, Juliette Brou en coulisses et moi-même, Caroline Lachowski, vous donnons rendez-vous lundi pour de nouvelles interrogations. Cette fois-ci, ce sera sur notre propre cerveau humain. Trop humain. Merci de votre fidélité et de votre interactivité, chers amis auditeurs et internautes. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver vos informations.